Nous qui sommes nés aux alentours de 1920, nous avons parfois un choc en nous apercevant que la génération qui suit la nôtre arrive déjà à l'âge de la retraite. Oui, nos enfants sont ou seront bientôt ceux que l'on appelle maintenant des seniors. Ils ont quelques cheveux gris et souvent des rhumatismes. En vieillissant, ils relèguent très loin dans le passé les années qui ont précédé leur naissance, ces années 1920 à 1940, dont nous ne sommes plus très nombreux à nous souvenir et qu'il nous semble parfois ne pas avoir réellement vécu. Et pourtant, c'est moi, cette gamine qui demande un numéro de 3 chiffres à la demoiselle du téléphone. C'est moi qui entends pour la première fois une voix sortie d'un drôle d'appareil bricolé par un cousin et qu'on appelle poste de TSF. C'est moi qui assiste avec mes parents à un meeting d'aviation et qui regarde effrayé ces étranges volatiles qui tournoient dans le ciel, juste au-dessus de nos têtes. C'est moi qui vois le zeppelin qui survole lentement les toits de Genève. C'est moi qui m'émerveille qu'un Américain nommé Lindbergh ait réussi à traverser l'océan Atlantique seul à bord d'un petit avion. C'est moi qui déteste le mot « crise » car il est responsable des soucis financiers de mon père, des larmes de ma mère. C'est moi qui écoute passionnément Lucienne Boyer chanter « Parlez-moi d'amour ».
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
C'est moi qui dépose le soir dans un casier au bas de l'immeuble un carnet bleu, le carnet du lait, avec le pot que le laitier remplira à l'aube lors de sa tournée quotidienne. C'est moi qui jette une pièce de 20 centimes enveloppée dans du papier de soie à l'accordéoniste qui joue dans la cour le dimanche matin. C'est moi qui admire le travail du quart d'heure de matelas qui s'installe périodiquement au bas de l'immeuble du quartier des Falaises. C'est moi qui suis parfois réveillée par les sonnailles d'un troupeau de vaches qui traverse la rue à la périphérie de la ville. C'est moi qui regarde les mains de la femme de lessive, des mains blanches et crevassées qui semblent avoir été bouillies avec le linge. C'est moi qui voit le premier film parlant et chantant. C'est moi qui m'indigne que des soldats suisses, un soir de novembre 1932, aient pu tirer sur la foule à Genève et tuer des gens. C'est moi qui fume en cachette ma première cigarette, une Xantia Mireille Rose. C'est moi qui apprend qu'un certain Adolf Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. C'est moi qui admire Mussolini et qui chante « Faccetta nera » pendant la guerre d'Abyssinie. C'est moi qui entend dire qu'un socialiste a été élu chef du gouvernement en France et qu'il y aura désormais des congés payés pour tous les salariés. C'est moi qu'on emmène le dimanche faire des promenades en voiture avec presque chaque fois un pneu qui crève. C'est moi qui qui ait envie de danser en entendant Charles Trenet chanter « Il y a de la joie » et « Quand notre cœur fait boum ». C'est moi qui suis sûre que la guerre n'éclatera pas. Une sage petite écolière coiffée d'un béret basque, une adolescente qui lit Musset en pleurant, une fille qui trouve que les baisers sur la bouche, c'est vraiment dégoûtant. Oui, c'était moi. C'était bien moi, à cette époque qui, de plus en plus, aux approches de la mort, devient floue, un peu tremblée, comme les films en noir et blanc des débuts du cinéma. D'une très petite fille, 3 ans, 4 ans, elle est seule dans le jardin en fin d'après-midi. Elle n'est pas abandonnée, bien sûr. Il y a quelqu'un dans la villa, quelqu'un qui s'approche de la fenêtre de temps à autre pour s'assurer que tout va bien. Qui ? Pas la jeune maman tant aimée qui est descendue en ville, mais une personne de confiance, peut-être Violette, la bonne dévouée qui fait pour ainsi dire partie de la famille. La petite fille joue sagement, comme on le lui a demandé. Elle a trouvé un jeu que personne ne lui a enseigné. Elle a creusé un trou dans la terre avec sa truelle. Elle va jusqu'au robinet tout proche et emplit son seau. Puis, elle referme soigneusement le robinet et retourne à ce trou creusé dans la terre molle. Elle vide le seau et l'eau disparaît presque aussitôt. Disparaît où ? La petite fille regarde le trou vide, reprend son seau, retourne au robinet. La prochaine fois, c'est sûr, l'eau restera. Il faut que l'eau reste. La petite fille n'est pas heureuse. Du fond de la campagne, quelque chose approche qu'elle ne sait pas nommer. Quelque chose qui envahit le jardin où l'ombre commence à gagner du terrain. Quelque chose d'immense, de menaçant. On pourrait dire solitude. On pourrait dire angoisse. Mais la petite fille n'a pas encore de mots à sa disposition. Elle sent seulement que ce quelque chose lui serre la gorge, contracte sa poitrine. Elle ne devine pas, ne peut pas deviner que toute sa vie, et même quand elle sera vieille, surtout peut-être quand elle sera vieille, la chose sera là, quelque part en elle. Il faut que l'eau reste. Il le faut absolument. Elle retourne vers le robinet. Elle sera la plus forte à la fin. Plus forte que cette eau qui fuit, que cette terre muette qui boit, boit sans se rassasier, cette terre ennemie qui engloutit. Mais on l'appelle de la villa. Ce n'est pas encore sa maman. « Pourquoi pleures-tu ? » demande la personne qui est à la fenêtre. « Tu t'es fait mal ?» Elle fait non de la tête. Elle lâche la truelle et le seau. Elle rentre dans la maison. Eh ben moi, dit la petite fille qui commence à s'ennuyer, moi quand je serai grande, je ne me mettrai pas de rouge à lèvres au restaurant. Le père est trop content d'avoir trouvé une raison de se fâcher. Tu vois, dit-il à sa femme qui referme son sac à main, même la petite est choquée par ta manière de te conduire. Que répond-elle, la malheureuse? Sûrement elle ne s'excuse pas. Ce n'est pas sa façon d'agir. Elle dit peut-être qu'elle a tout de même le droit de faire ce qui lui plaît, sans être jugée par une enfant qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Ce qui est certain, c'est que cette réponse irrite davantage le père, fait monter sa colère. Il se met à crier, autant qu'on peut le faire dans cette brasserie genevoise, fréquentée par des gens plutôt bien élevés. Il retrouve sans peine de vieux griefs, toujours les mêmes, assortis de quelques autres plus récents. Quand il se taira, il boudera, ne dira plus un mot pendant 2 ou 3 jours. Et ce sera encore pire que de l'entendre déverser sa rage. Elle, la petite fille, la responsable de ce drame, qui en un instant a changé la couleur de ce jour qui devait être un jour de fête, elle se tait. Elle pense qu'elle se méfiera désormais de ce qu'elle dira, que peut-être elle ne dira plus rien. Les paroles, c'est dangereux. Une fois qu'on les a prononcées, on ne peut plus les effacer. Elles restent là, invisible. Celle qu'elle vient de lancer comme ça, elle ne sait pas trop pourquoi, ce rouge à lèvres, elle s'en moque. Elle n'avait pas du tout l'intention de critiquer sa mère. Ses paroles ont le pouvoir presque magique de détruire le plaisir, d'empoisonner l'atmosphère. Alors, pense la petite fille, puisque je ne peux pas rattraper mes paroles une fois qu'elles sont sorties de moi, alors, je vais les écrire, bouche bien fermée. Les paroles écrites, c'est moins dangereux. Si on écrit au crayon, on peut tout effacer. Le papier redevient blanc. Les paroles ont disparu. Elles ne feront de mal à personne. Et si on écrit à l'encre, on peut déchirer la feuille en tout petits morceaux, les jeter à la corbeille, jusqu'à ce que rien ne subsiste. Oui, pense la petite fille, toujours assise à la table, devenue maintenant, par sa faute, silencieuse, hostile. Oui, c'est décidé. Je vais écrire au lieu de parler.
Thank you.
la neige sur son visage. Dur, glacé. La neige, dont l'humidité transperce son manteau trop léger, son manteau de guerre. Le trajet est long sur la plateforme découverte de ce tramway qui traverse toute la ville. Rentre, mais rentre donc, mets-toi à l'abri. Elle veut rester là. La neige, la blanche neige, la danse des flocons, la pureté. Elle redevient une petite fille que personne jamais n'a touchée. Enfermée dans son corps intact, bien protégée par sa peau. Là-bas, il l'attend. Le grand bâtiment où les pas résonnent, les portes qui battent. Il n'y a pas de fuite possible, pas de dérobade. Il sera là. Ses mains si habiles à se faufiler sous les vêtements pour trouver la chair, là où elle est douce et fragile. Sa langue qui force la barrière des dents. Quitter ce travail? Comment pourrait-elle l'expliquer? C'est celui dont elle rêvait. La vérité est une bombe qu'elle n'ose pas faire exploser. Et puis, voudrait-elle? Voudrait-elle vraiment? Il dit les mots tendres que toutes les filles naïves attendent au début de leur vie amoureuse. Il la serre contre lui, la caresse, lui fait croire qu'elle est belle. Il sait comment s'y prendre pour amadouer les petites secrétaires. Il tisse sa toile autour d'elle, lentement, patiemment. Il est tout puissant et il le sait. Ses meilleurs alliés, la peur, le silence, la honte. Demain, elle retournera sur la plateforme du tram. La neige ou la pluie, qu'importe. Ce qui tombe du ciel est propre. Elle se sent sale. Elle a 20 ans. Il lui faudra vivre avec ça. Longtemps. Ces matins d'été, les premiers matins de nos vacances, n'existent plus que pour moi depuis que tu nous as quittés, un jour de mars 1989. Tous les souvenirs que nous avons partagés si longtemps et que nous aimions évoquer ensemble, je suis seule maintenant à pouvoir les faire revivre. Ils disparaîtront avec moi. La porte refermée sur mon père, qui n'avait pas pris de vacances depuis 10 ans, nous descendions l'escalier étroit aux marches trop hautes qui conduisaient au local où l'on rangeait les bicyclettes. Elles étaient là, bien arrimées à leurs crochets. Les dépendre, les porter pour remonter l'escalier, fixer sur le porte-bagages les sacs qui contenaient les objets de première nécessité, ouvrir la porte de l'immeuble. Dehors, c'était l'aube. Presque tout de suite, la descente commençait. Je roulais devant toi, comme pour te protéger d'un danger. Mais il n'y avait pas de danger. Aucune voiture. Partout, les moteurs se taisaient. C'était la guerre. Un matin de guerre, si paisible ici. Tellement empli de bonheur, que l'on oubliait presque les drames qui se déroulaient au-delà de nos frontières. Nous freignions rarement. La vitesse faisait partie du plaisir. Toutes les deux, nous attendions le moment où, tout à coup, parvenus sur le quai désert, nous verrions le lac, les arbres du jardin anglais, et sur notre gauche, la haute silhouette de la cathédrale, avec sa flèche pointue qui se perdait dans la brume matinale. En traversant le pont, on apercevait les bateaux immobiles, les deux jetés, et au-delà, le haut lac, presque la mer. Je ralentissais pour être à ta hauteur. Nous nous regardions. Nous savions que nous connaissions le même bonheur. Toi à 40 ans, moi à 20. Toi qui pensais parfois que ta vie était finie, moi qui étais si impatiente de commencer la mienne. Un certain été, en 1941 ou 42, un orage nous a surprises près de Biasca. Nous avons passé la nuit dans une auberge gardée par des soldats en gris vert qui, nous prenant pour deux amis, nous appelaient « Signorine !» Ce qui nous faisait rire, moi gaiement, toi un peu mélancoliquement. Le lendemain matin, de bonne heure, nous avons repris la route. Le paysage était comme lavé, dans une lumière neuve, un peu tremblante. La terre sentait le foin, le thym, la lavande. Moi qui chante si faux, j'ai entonné à pleine voix une chanson que l'on entendait souvent l'été précédent. Parlami d'amore, Mariut, tutta la mia vita, sai tu. Et je pensais au petit orchestre champêtre du Grotto Chiodi près d'Ascona, où l'on dansait les pieds dans l'eau. Le séduisant mandoliniste aux yeux verts, aux cheveux bouclés, serait-il là cette année? Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita, sei tu. Je me suis retournée vers toi. Tu pédalais bravement à quelques mètres derrière moi. Tu avais l'air très jeune. Ton visage avait une expression heureuse que j'aurais voulu lui voir plus souvent. Lettre à une dévouée secrétaire. Madame, vous êtes décédée le 10 février 2002. Vous ne pourrez donc pas me lire. Il faut pourtant que je vous écrive pour vous dire à quel point je suis troublée par votre histoire. Il y a des coïncidences étranges. Nous sommes nés la même année, 1920. Vous auriez voulu danser. Moi, je voulais écrire. Et toutes les deux, nous avons été obligées d'avoir un autre métier pour gagner notre vie. Nous sommes donc devenues secrétaires. Notre problème, trouver un bon patron. Vous avez eu cette chance presque tout de suite. Votre patron, vous le décrivez comme un homme calme, tranquille, amical, paternel. Il vous inspirait confiance, vous rassurait. Et il y avait dans sa manière de parler doucement quelque chose qui vous fascinait. C'était la guerre. La plupart du temps, vous logiez dans une résidence en pleine forêt, avec une autre secrétaire et du personnel. Souvent, pour se détendre, le patron venait manger avec vous, les secrétaires. Ces repas étaient agréables. Vous n'aviez pas énormément de travail et vous alliez souvent vous promener dans la forêt. Vous baigniez dans les lacs des environs. La belle vie, en somme. Et pas une question dans votre petite tête de 23-24 ans. Les Juifs, personne n'en parlait jamais. Vous en arriviez presque à oublier la guerre. Jusqu'au jour où une bombe a éclaté. mais votre patron n'a été que blessé. La Providence, une fois de plus, l'avait protégé. C'était le 20 juillet 1944. Dans les camps d'extermination, les chambres à gaz fonctionnaient à plein régime et les fours aussi. Vous n'en saviez rien, affirmez-vous dans le film que l'on a tourné avec vous peu avant votre mort. Vous vous appelez Traudel Jung. Vous avez un beau visage. Et vous parlez de tout cela avec beaucoup d'émotion. Vous ne pouvez retenir vos larmes lorsque vous vous souvenez de la mort des 6 enfants de Goebbels. Vous êtes resté dans le bunker jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, alors que vous auriez pu vous échapper. Vous affirmez que c'est bien plus tard, après la fin de la guerre, quand vous êtes sorti de prison, que vous avez tout découvert. Les camps, les millions de victimes, toutes les horreurs. Et vous avez eu un choc violent, dites-vous, quand vous avez appris qu'une fille de votre âge, Sophie Scholl, la résistante de la Rose Blanche, avait été décapitée le jour même où vous êtes entrée au service d'Hitler. Si vous mentez, vous avez su à merveille mimer la sincérité face à la caméra. Vous apparaissez sympathique, humaine. On ne peut pas vous en vouloir vraiment. Et si vous ne mentez pas, si vous avez vraiment vécu en marge de l'histoire, des crimes, de la réalité, préoccupé avant tout de votre vie personnelle, vous étiez jeune. Je suis devenue adulte très tard, constatez-vous, au cours de l'entretien. Est-ce que cela peut être une excuse? Je pense à moi, secrétaire comme vous pendant ces années noires. Contrairement à vous, je voyais la guerre de très loin. Je n'ai connu Hitler que sur des écrans et par la radio allemande qui diffusait ses discours. Mais il y a des choses que j'aurais pu comprendre et que je n'ai pas comprises. Les refoulements à nos frontières, les usines qui travaillaient pour l'Allemagne, tout ce que l'on a reproché aux Suisses ces dernières années avec tant d'âpreté. Je vous l'ai dit au début de cette lettre. Votre histoire me trouble. Elle me concerne. Elle m'interroge et touche un point sensible. Elle me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre. Comment aurais-je agi si j'avais su ? Il me dit, je vais vous prononcer trois mots. gare, rose et porte. Et tout à l'heure, je vous demanderai de les répéter. Nous continuons notre conversation dans cette petite pièce où l'on accueille les nouveaux arrivants. Et pendant ce temps, j'invente rapidement un petit truc mnémotechnique. Il y a une rose sur la porte de la gare. Le moment venu, je répète docilement les trois mots. C'est fini. J'ai bien passé mon test. Non. Il me donne une feuille de papier et me demande poliment de la plier en quatre, puis de la laisser tomber. D'abord perplexe, je comprends soudain que je suis entrée dans un monde où j'aurai de la peine à prouver que ma tête fonctionne encore correctement. Le monde de la grande vieillesse. Il faudra que je m'y habitue. Les anges gardiens. J'aurais voulu écrire les anges gardiennes. Mais non. Après avoir beaucoup discuté du sexe des anges, on a adopté le masculin. Un ange et non pas une ange. Pourquoi ? Cela fait sans doute partie de ces discriminations. On finira un jour par avoir raison. En attendant, je suis bien obligée de préciser que les anges dont j'ai envie de parler aujourd'hui sont des femmes, une douzaine de femmes entre 25 et 60 ans. Certaines sont originaires d'ici, mais les plus nombreuses viennent de loin, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, du Pérou ou même d'Afrique, comme Alvo, la jeune Somalienne chassée par la guerre. Elle est venue tous les matins, pendant 3 mois, jolie sous son foulard qui sied si bien à sa peau dorée. Et c'est grâce à elle que j'ai pu recommencer à vivre chez moi après mon dernier séjour en clinique. Quand elles ouvrent la porte le matin, j'essaie de deviner laquelle est là. Je reconnais presque toujours leur voix, leur manière de me dire bonjour, parfois leur accent. D'ailleurs, peu importe. Ce qui compte, c'est leur sourire, leur gentillesse, leur dextérité. Elles rendent possible, agréable, la douche que je ne pourrais plus prendre seule sans courir le risque de glisser dans la baignoire. Elles font chauffer en un clin d'œil l'eau du thé et m'aident à enfiler des vêtements récalcitrants. Mais surtout, elles me font cadeau de leur présence, de leur écoute et de cette sympathie si précieuse quand on est mal en point. Comme j'ai la chance d'avoir gardé intact mon intérêt pour les autres, je parviens à imaginer leur vie personnelle, leurs maris, leurs enfants, grands ou petits, leurs parents âgés, leurs vacances, leurs loisirs, parfois leur fatigue et leur solitude. Elles ne disent pas grand-chose de leur travail, secret professionnel oblige, mais je comprends à demi-mot que les patients qu'elles visitent chaque jour seraient sans elles, totalement démunis, et qu'elles leur évitent l'ultime crève-cœur d'une hospitalisation non désirée. Des anges gardiens, oui. Un peu semblable à celui qui figurait sur un tableau suspendu au-dessus de mon lit quand j'étais petite, et que j'étais sûre certains matins de voir déplier lentement ses ailes. Cette image me ramène à d'autres anges, également de sexe féminin, qui m'ont permis de naître et de grandir. La naissance, la petite enfance, c'était là autrefois des domaines où les hommes ne s'aventuraient pas. Il leur suffisait d'avoir donné la vie, même involontairement. La suite était l'affaire des femmes. Pour moi, il y a eu, outre ma petite maman qui avait bien besoin d'être soutenue, ma grand-mère, Jeanne. Mon arrière-grand-mère, Amélie. Et celles que l'on appelait les bonnes, Lina, Violette, Yvonne, Marie, Bernadette. Je n'ai oublié aucun nom, aucun visage. Pas plus de ceux de Catherine, la vieille petite repasseuse toute voûtée, ou Madame Blanchot, la femme de lessive, aux mains abîmées par l'eau brûlante. Mais je ne serais sans doute pas là sans deux autres anges gardiennes. Sophie de Patton, la minuscule doctoresse russe, chassée de son pays par la Révolution. Je revois avec une étonnante précision son petit visage blanc, osseux. Je sens ses mains sèches et toujours froides. J'entends son accent qui roulait bizarrement les airs. Et la sage-femme, Madame Chaperon, devenue par la suite une amie de la famille. Toutes les deux, elles ont peiné pendant des jours dans l'appartement de la rue Léon Gault pour extirper d'un ventre trop jeune un bébé qui ne voulait pas naître. Des femmes, des visages de femmes, des mains de femmes, des premiers jours aux derniers jours, d'un mystère à un autre mystère. Toute ma vie est là, entre ces pages. Toutes les femmes que j'ai imaginées, mes sœurs de papier, ne sont pas des féministes pures et dures, bien qu'elles aient vécu à une époque de militantisme, de révolution sexuelle. Elles reflètent pourtant, chacune à sa manière, l'évolution de la femme pendant plus d'un demi-siècle. Elles ont essayé de combattre l'ignorance, l'hypocrisie, les préjugés qui régnaient encore à l'époque de leur enfance. Elles ont compris aussi que la liberté intérieure est essentielle. Elles se sont battues contre tout ce qui les emprisonnait. Chacune de leurs histoires est en fait le récit du combat, parfois difficile et douloureux, qu'elles ont mené pour conquérir cette liberté, sans laquelle on ne peut vivre en accord ni avec soi-même, ni avec les autres. Dans ce combat, elles m'ont suivi. Elles m'ont parfois précédé. Au moment de me séparer d'elles, je leur dis merci. D'ailleurs, je ne les quitte pas vraiment. Proches des êtres que j'ai réellement côtoyés, elles font partie de moi.